Cascodeur Podcast, épisode 230. Du confinement à la déconfiture. Enregistré le 10 avril 2020.
Bonjour et bienvenue au Cascodeur, épisode 230. Nous sommes le 10 août 2020. La
le
moitié de la population.
Le 10 août.
J'ai envie de me projeter, on dirait.
Vas-y, projette-toi.
Et nous sommes le 10 août, le confinement n'est pas encore terminé.
C'est ça. Ouais,
c'est peut-être
ça,
à la rentrée. Bonne...
C'est ça, c'est la mauvaise nouvelle. Bah,
en fait.
Voilà, donc la moitié de la population mondiale apparemment est confinée. Et puis c'est pas encore fini, voilà. C'est marrant parce qu'on discutait un peu là les cascodeurs sur comment on sentait les choses. Là, il y avait Arnaud qui était en mode c'est la fin du monde hein, quand même. Et moi je disais que j'étais un peu l'optimiste du genre ça va quand même. Donc je sais pas, vous le sentez comment vous? Ça y est, c'est la fin du monde ou pas?
Bah, moi, ce que je me demande, il y a des philosophes ou autres qui disent, ouais, peut-être qu'on va enfin prendre conscience de ce qu'on fait à la planète, etc. Et que ça c'est un épisode, mais il y en aura d'autres. Et on a oublié aussi des épisodes qui ont fait encore beaucoup plus de morts en 58 et en 68, d'autres grippes, des choses comme ça. Et moi, j'ai l'impression que je sens que ça va pas forcément vraiment changer grand-chose. Il va y avoir quelques mesures pour redonner un peu d'argent à l'hôpital, et puis, mais bon, ça, il y aura bien un moment, dans 5 ans, dans 10 ans, quelqu'un qui va dire, oh, finalement, on n'a pas besoin d'autant de temps de masque. On oublie très vite, quand même, j'ai l'impression. Trop vite.
Ouais, c'est sûr. Après, il y aura peut-être pour moi, il y aura effectivement une évolution des choses, mais pas une révolution, je pense pas, en fait, en tout cas.
Ouais, voilà, parce et moi, que... comme je suis une grosse gaucho, moi, je voudrais la révolution, après.
Et ouais, je sais bien. Mais j'ai peur que vous soyez déçus.
Ouais, je sais,
à gauche.
Je compte pas trop dessus parce que je sais bien que je vais être déçu. Mais...
Ouais. Non, parce que, en fait, en tout cas, quand même, ça rentre un peu dans les opinions personnelles carrément, mais c'est peut-être trop tard, etc. Mais il y a eu quand même des choix assez forts, tu vois. On est tous confinés. L'économie, en gros, ils ont décidé de l'arrêter aux deux tiers, quoi, ou pire. Voilà, il y a quand même des choix assez forts.
Je suis pas sûre qu'elle soit arrêtée aux deux tiers. Hein. Sincèrement, il y a plein de services non essentiels qui fonctionnent.
Hein. Je veux dire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, l'INSEE, elle dit, en gros, il y a un tiers de l'économie qui est plus là, en fait, qui a disparu là depuis le confinement. Il en reste quand même deux tiers.
Si tu veux, ce qui me dérange là-dedans, c'est que dans les deux tiers qui fonctionnent, il y a une partie qui est pas essentielle et c'est des gens qui sont exposés inutilement au danger, quoi. Moi, dans mes proches, j'ai quelqu'un qui travaille dans une usine de fabrication de papier, de pâte à papier en temps normal, et l'usine n'est pas arrêtée et ils ont aucune mesure de protection. Ils ont rien.
Ouais.
Et c'est pas essentiel. Et c'est ça, en fait, qui me dérange là-dedans.
Pour l'école à la maison, combien de centaines de pages on imprime?
Ça, c'est un autre problème.
Bref, il y en a qui disent, on y en est encore pour plein de mois. Moi, je sais pas, j'ai une version un peu plus optimiste de la chose, mais bon, on verra. En tout cas, voilà, moi, je m'appelle Emmanuel, je travaille pour Red Hat. Ça fait longtemps qu'on l'a pas dit. Guillaume.
Moi, je m'appelle Guillaume et je travaille pour Google.
Et moi, je m'appelle Audrey et je travaille pour Pivotal et bientôt pour VMware.
Tu travailles ?
Je travaille !
Et en plus, Pardon. Tu travailles.
Ouais, je sais, c'est fou. Oui, voilà,
félicitations.
Merci.
Tu peux dire sur quelle zone tu travailles ou pas ?
Complètement, je travaille sur le projet Reactor. Donc le projet Reactor, c'est l'implémentation Spring des Reactive Stream, et donc c'est celle qui est utilisée notamment par Webflux, mais qui est aussi utilisée, qui peut être utilisée dans vos projets réactifs. Et voilà. Donc je suis super
contente. Je veux pas être méchant, mais si la France est rayée de la carte, il y a plus de réactifs. Parce que quand on a le nombre de Français qui travaillent sur Reactor, le nombre de Français qui travaillent sur Vertex.
Non, on perd juste la moitié de l'équipe. J'ai un collègue en Allemagne et une collègue en Bulgarie. On perd la moitié de l'équipe. Bon, dont le tech lead, mais
Enfin, voilà.
Donc, après, ouais, on est pas mal, effectivement. On est 400 Français et un Belge. Donc, ouais, on est pas mal sur... sans screen.
Alors, et donc une nouvelle assez triste pour les gens qui connaissent un peu l'écosystème Java depuis un certain temps. Vous connaissez peut-être de nom un monsieur qui s'appelait Carl Quinn. Qui est pas si vieux que ça, c'est pas genre quelqu'un qui a inventé l'informatique, c'est quelqu'un qui faisait partie du Java Posse, qui a été une énorme influence pour les Cascodeurs, parce que moi j'adorais leur travail, et puis on a construit les Cascodeurs beaucoup sur leur modèle, et puis après on s'est ajusté, sauf qu'on a changé la langue, hein, en gros c'était ça. Et il a succombé au Covid-19, c'était le 2 avril, donc il y a 15 jours maintenant. Ça nous rend triste parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement c'est pas que les autres, et même des gens qui sont globalement dans des âges non à risque, ça arrive aussi. Voilà, donc je sais que Guillaume, tu disais ouais que ça t'avait marqué.
Moi, ça m'avait pas mal marqué, parce que c'est vrai que c'était un peu une figure, si tu veux, comment on pourrait dire, à qui on... Enfin, c'est vrai que les Cascodeurs, on voulait quand même être le Java Posse français, quoi.
Exactement.
C'était une inspiration. En plus, c'était une personne qui était toujours adorable. Enfin, donc moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Donc soit à Devox, à Java One, etc. Et puis aussi, c'était un grand copain de nos amis de JFrog. Donc je le voyais aussi aux conférences de JFrog. Par exemple, JFrog nous emmenait faire une croisière dans la baie de San Francisco. Et il était là, il venait toujours aussi avec sa femme, donc la pauvre se retrouve toute seule. Et donc moi, ça m'a pas mal choqué. J'ai aussi la femme d'un de mes amis committeur, ancien committeur sur Groovy aussi, mais qui était pas toute jeune, mais qui est décédé aussi des suites du Covid. Donc enfin, on voit que, pardon, je suis un peu ému là, ça, des gens qui sont proches finalement sont emportés aussi, alors que au début, à écouter Trump il y a un ou deux mois, oh, c'est juste une petite grippe, c'est rien. Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais. Mais à écouter Trump, mais...
Mais en fait, il est là le problème dans ta phrase. Dans...
Non, mais je l'écoute pas, mais je veux dire, quand tu vois comme ça des gens...
C'est vrai qu'il y avait plein de gens qui disaient, bon, mais c'est comme la grippe, pour l'instant, il y a 1% des morts, etc. Là, on voit que ça commence à être sérieux en volume de morts mondial. Ouais, ouais. Et encore, on a mis la moitié des gens... En restant à la maison, ouais. Donc on imagine bien que les conséquences auraient été très très différentes.
Donc les amis, restez bien chez vous, les gestes barrières, voilà. Très important. Ouais.
Sur une note positive, donc ma famille, on est tous passés au Covid et on est tous encore là. C'était des symptômes légers pour ma femme et pour moi et pour mon gamin. Donc il y a eu un petit passage où on avait un petit peu peur quand même, mais voilà, il y a aussi beaucoup de... j'espère, hein, parce qu'on en parle moins, mais beaucoup de sorties positives, voilà.
Ouais, qui se passe bien.
Voilà, il faut garder, faut éviter de partir dans des spirales trop positives et trop négatives. Voilà, sinon on va parler de Java. on n'a pas encore fait 10 minutes, donc ça, on est dans la, dans la zone. On va se lancer dans les langages, la partie langage, avec le JDK 14 qui est sorti en disponibilité générale, comme ils appellent, General Availability. Quelqu'un veut prendre la main?
Bon, comme tu veux. En fait, on va pas, je pense, refaire un historique des fonctionnalités. Donc, petit rappel très rapide, c'est la version du JDK qui nous apporte le pattern matching avec instance off. Il y a l'aspect sur le Java Flight Recorder en event streaming. Il y a les null pointer exception, ce qu'ils appellent helpful, donc qui vont maintenant nous donner un petit peu plus de contexte. Il y a les fameux records, hein, je pense que ça c'est la feature qui était la plus attendue, la fonctionnalité, pardon, je vais encore me faire en guirlandais, ouais, qui était la plus attendue.
C'est en preview, hein, c'est en preview.
Ouais, en preview, mais bon.
Pattern matching aussi en preview.
On peut jouer avec. Voilà, les switch expressions, la nouvelle version qui prépare l'arrivée du pattern matching. Les text blocks qui passent en deuxième preview. ouais. qui sont d'ailleurs prévues maintenant pour le JDK 15, et puis l'API de Foreign Memory Access, etc. Voilà.
Ouais. Et puis, je voulais parler d'un truc là, parce que je me suis dit, il y a le NUMA Aware Memory Allocation pour G1. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis dit, bah, tiens, je me rappelle pas cet acronyme. Alors, c'est Non Uniform Memory Access. Et en gros, ça correspond au fait que les... Donc, on est tous à multiprocesseurs. Enfin, on est... les ordinateurs ont pas mal de multiprocesseurs, surtout les serveurs ou multicore d'ailleurs. Et le non Uniform Memory Access, c'est que il y a des accès mémoire qui sont plus locaux que d'autres. Donc, au sein du même CPU, c'est plus local que si on est obligé de transférer l'info d'un CPU à l'autre ou passer carrément à la mémoire, la RAM, donc la mémoire de niveau encore derrière. Et j'imagine que je n'explique pas toute la liste des caches. On a fait une interview intéressante avec Quentin, justement, où on parlait justement des processeurs, etc. Donc, peut-être qu'on a adressé cette adresse-là, ce chose-là. Mais en tout cas, quand on sait ça, les compilateurs peuvent essayer d'optimiser pour essayer d'exécuter les choses sur les mêmes données, sur le même processeur, pour garder la localité la plus haute possible. Donc c'est ça, NUMA Aware Memory Allocation. Voilà, c'était pour la connaissance du jour.
Et par contre, c'est sur toutes les architectures hardware. Je croyais que c'était que sur certains processeurs ou serveurs, genre entreprise.
NUMA Aware?
Ouais.
Je sais pas. Après, je sais que au niveau Linux, il y a du support. Mais après, si ton processeur il a pas plusieurs étages, ouais. Nécessairement, ben voilà.
Ok.
Et je sais pas. C'est une bonne question.
D'accord.
Ensuite, il y a un article sur l'état de l'art de Java, qui est un langage extrêmement populaire. Donc c'est New Relic, qui est un produit payant de. Ça fait quoi d'ailleurs, New Relic?
C'est du monitoring et tout ça.
Ouais. Et justement, et du coup, ils récupèrent des informations des déploiements de leurs clients. Et du coup, ils ont des stats sur qui utilise Java 14, qui utilise Java 13, 12, 11, 19, 8, etc. etc. Donc, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a encore beaucoup de Java 8. Il y a beaucoup de Java 8 qui sont pas à la dernière version de Java 8. Donc, il y a peut-être des bugs et des choses. Et des Java 8 qui sont clairement des Java 8 où il y a des bugs de vulnérabilité assez forts. Donc, il y a des gens qui upgradent pas. Donc, ça, faut faire attention. Mesdames et messieurs, upgradez vos versions de Java, même si vous restez sur une version Java 8. Et puis, que, en gros, ben voilà, Java 11 est à 11% et les autres restent quand même en dessous du pourcent largement. Donc, il y a encore du taf pour avoir Java 11 en principal.
Après, ce qui m'était aussi et qui est assez intéressant, c'est que globalement, les versions qui ne sont pas long time support ont très très peu d'adoption.
Ouais, mais ça, on s'y attendait. Ouais.
Ça, on s'y attendait.
Ouais.
Mais, ça le confirme en tout cas, disons.
Ouais. Et pour info, ils listent les vendeurs non Oracle du JDK. Donc, tu as Adopt OpenJDK, Azul, etc., etc. Pour information, je crois que la version de Red Hat, elle dit Oracle en tant que vendeur, donc vous voyez pas de différence. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a une Oracle est passé de 100% en gros à 75% maintenant et que ça va évidemment continuer à descendre très probablement avec des gens qui utilisent des versions spécifiques à leur vendeur, y compris Pivotal d'ailleurs.
Tout à fait. Ouais. Et j'étais surprise du positionnement d'Amazon, qui est plutôt bon, sachant que leur version du JDK est pas si vieille que ça. Mais peut-être. Ouais,
après,
mais alors.
Peu aussi beaucoup, hein. Donc, ouais, ça se trouve ici,
voilà.
New Relic.
C'est ce que je me disais. Ouais. Ouais.
Bah après, comme toute étude, hein, ils ont forcément leur biais, hein, donc ça vaut.
Oui, de toute façon,
ça vaut que leurs clients, évidemment.
Ils ont évidemment, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'ils expliquaient justement. Ouais. Parce qu'il y avait un peu des polémiques entre... Il y avait eu le rapport de SNCC, qui était un petit peu différent, ouais. Celui-là qui est un petit peu différent, et évidemment, chacun a son biais. Mais au moins, on sait que... Parce que, par exemple, il y avait une petite polémique sur la manière dont ils comptabilisaient... en fait, ils comptabilisaient par JVM. Donc, par exemple, un gros client qui aurait beaucoup de JVM, mais c'est un seul projet, c'est compté quand même comme 100 JVM, alors que peut-être un client plus petit avec une seule VM, bah oui, c'est compté que
d'accord.
comme... Donc, il y en avait qui disaient, ah oui, mais c'est biaisé par rapport au gros plutôt qu'au petit, etc. Alors, forcément.
C'est un nombre de déploiements, en fait.
De déploiements, ouais. Et du coup, en fait, oui, mais si tu aurais pris l'autre biais de dire que c'est que par client, ah bah oui, mais ça, enfin, quel que soit le choix que tu fais, c'est un biais. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même intéressant parce que ça prouve que voilà, les déploiements, voilà, en prod, monitorés, etc., sont quand même assez, comment dire, enfin, ils restent sur quelque chose de sûr, quoi. Beaucoup de Java 8, quoi.
Ouais. Et un truc que j'ai trouvé intéressant que j'avais jamais vu avant, c'est la configuration du HIP, le fameux XMX et XMS, même si XMS c'est moins important pour, en tout cas pour les gens qui font du back-end. Mais le XMX, globalement, y a quand même beaucoup de gens qui poussent pas la JVM à des gros volumes de données. Donc là, on a le G1 Garbage Collector qui était censé faire des dizaines de gigabits de HIP, et au final on voit que les gens quand même ils continuent à déployer, voilà, on voit du 8, on voit beaucoup de 2, du 4, du 8, voilà, ça c'est un peu les max qu'on a tendance à voir, sinon les statistiques descendent très bas, et ça c'était intéressant comme info. Voilà, sinon tiens, on parlait de JDK et d'adoption, donc d'ici 6 mois Eclipse a décrété qu'il n'allait tourner que à partir de JDK 11. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas écrire un projet JDK 8 ou même en dessous en utilisant Eclipse. C'est juste que Eclipse lui-même va tourner avec JDK 11 ou au-dessus. Donc, ça, fait partie des gens qui commencent à dire, bon, bah là, maintenant, on veut utiliser les fonctionnalités de JDK 11, voilà, et donc, on veut avancer. José Pomar a publié 50 heures de cours sur YouTube. Donc,
juste si 50 heures.
Cet homme est un fou furieux.
C'est énorme. C'est énorme.
Non, je rigole. Ouais, c'est énorme. Je sais pas comment il a fait.
Ouais. Bah, en plus, je sais pas si vous avez jeté un coup d'œil aux vidéos, mais c'est super bien fait. C'est vraiment, félicitations, José, parce que.
Ouais. J'aimerais bien savoir comment il a fait. Il y a un truc, il faut vraiment que vous regardiez. Hein. Même si vous n'avez pas le temps de regarder les 50 heures, regardez. Et il a une sorte de tableau. J'avais déjà vu ça dans d'autres vidéos, mais je sais pas comment il fait. Les tableaux où il écrit dessus, qui sont transparents, en fait. Donc, on le voit de face, il écrit dessus, mais à l'envers, genre en miroir. Enfin, il écrit normalement, je pense que c'est juste la vidéo qui est en miroir. Et en fait, on a l'impression qu'il est en train d'annoter, d'écrire pour nous, en face de nous. C'est trop bien fait.
Du coup, il écrit comme dans les sous-marins, à l'envers, là ?
Ouais, non, je pense pas qu'il écrive à l'envers. Je pense que c'est la vidéo doit être mirrorée et doit avoir quand même un truc en... Enfin, je sais pas. Je suis curieux de savoir comment il a fait ça.
D'accord. C'est
trop bien fait.
Bah, écoute, José, si tu veux faire un podcast pour nous expliquer comment tu fais ça.
Puis félicitations, parce que vraiment, super. T'as fait un super boulot, José.
Très, très didactique, si vous démarrez en Java, enfin.
Ou si vous voulez réviser, parce que.
Même réviser, ouais.
Tu vois, des fois, sur des sujets, puisque là, il y a quand même l'intégralité de ses cours, en fait, donc, il y a des sujets avancés également, et en plus, c'est bien fait parce que c'est découpé en vidéo de 2-3 minutes, donc, si vous n'avez pas le temps de vous faire une heure et demie, c'est pas grave, vous faites quelques épisodes et vous reprenez plus tard le lendemain, enfin, c'est super, vraiment super bien fait.
Ensuite, sur le futur de Java, donc il y a des JEP, on en a sélectionné 3, donc pour le JDK 15, ZGC en non expérimental, c'est ça, ou en non preview?
Ouais, j'imagine. En fait, il va passer d'expérimental à fonctionnalité. Voilà. Il reste, le garbage collector par défaut restera G1, mais, et c'est la même chose pour Shenandoah d'ailleurs, en fait. Les deux sortent du mode expérimental. Ils sont maintenant disponibles. Enfin, ils seront avec la 15.
Et puis les text blocks dont on a parlé.
Voilà.
Sachant que ZGC, vous avez pu l'utiliser avant, il suffit juste d'activer les flags, et c'est pareil pour Shenandoah, donc dans la distribution Red Hat, il était déjà depuis pas mal de temps, mais du coup, c'est cool de les voir se grandir, en fait. Donc ça va pas simplifier Java, parce qu'on va avoir encore plus de garbage collector à choisir. Cela dit, ils ont enlevé le concurrent Map Sweep, je crois, aussi. Du coup, voilà, il y en a un qui est parti au moins. Voilà. Kotlin 1.4 Milestone 1 est réalisé avec un certain nombre de choses. Quelqu'un veut prendre la main? Tiens, Audrey.
Au hasard. Alors il y a plein de choses. Il y a notamment un nouvel algo d'inférence de type qui est plus puissant, qui était disponible depuis la 1.3, mais qui était en opt-in, et maintenant c'est la version par défaut. Il y a la conversion, Sam, qui... Alors, en fait, c'est une conversion qui va permettre...
C'est l'abstract method.
Voilà, Exactement, Single Abstract Method, ça permet de passer une lambda lorsqu'une interface ou une classe avec juste une méthode abstraite est attendue en paramètre. Et en fait, c'est quelque chose qui était disponible pour les interfaces Java et qui l'est maintenant pour les interfaces et pour les fonctions Kotlin. Donc l'inférence de type, on l'a dit, elle est améliorée donc dans beaucoup de cas, notamment l'évaluation de la dernière expression à l'intérieur du lambda ou le cas d'un appel à ce qu'on appelle une callable reference. Donc c'est tout ce qui va étendre de callable. Je vous laisse aller lire la doc parce que ça va être compliqué à résumer là simplement. Il y a l'introduction, ça on en avait déjà parlé, du mix des arguments nommés et des arguments positionnés, des trailing comma, du break et du continue, des instructions break et continue dans le when. Il y a également, donc on en avait parlé également dans des épisodes précédents, il y a un gros travail de refacto sur les compilateurs.
Dans les épisodes précédents, donc je mets du contexte.
Écoute, tant que tu me chantes pas plus belle la vie, ça va.
Je le connais pas, mais sinon je l'aurais fait.
Tant mieux. Non, on le fait pas. Je t'en supplie. Donc notamment là, le nouveau compilo Kotlin vers JVM, il est capable de générer des annotations dans le bytecode pour les versions JDK 8 et plus, ce qui va faciliter l'utilisation de librairies Java existantes. Il y a la syntaxe des contracts. Alors les contracts en fait ont été introduits en 1.3. Ça permet à une fonction de décrire son comportement d'une manière qui va être comprise par le compilo. Donc ça va permettre notamment de préserver les smartcasts quand ces fonctions-là sont appelées dans d'autres fonctions ça va permettre d'analyser les variables qui ont été instanciées dans d'autres fonctions que celles où elles sont appelées. Donc ça, c'est une syntaxe qui a été introduite en 1.3. Ça reste une syntaxe expérimentale, mais elle supporte maintenant plus de cas. Par exemple, elle va là, dans la version introduite, elle supporte les génériques réifiés. Au niveau du back-end Kotlin.js, donc c'est pareil, il y a ce nouveau compilo qui arrive, qui est maintenant utilisable avec un flag dans le Gradle Properties. Donc soit vous le mettez à IR pour passer complètement sur ce nouveau compilo, ou alors si vous avez besoin, parce que ça peut arriver, vous pouvez avoir besoin de générer encore des versions qui fonctionnent avec l'ancien compilateur, parce qu'il n'y a pas de rétrocompatibilité avec l'ancien backend. Donc dans ce cas-là, vous mettez le flag à both. Et donc ce compilo, ce qui est intéressant, c'est qu'il va être capable de faire des optimisations qui sont bien plus agressives, donc ça rend le code qui est généré beaucoup plus léger. Et il y a notamment, entre autres, enfin il y a plein de fonctionnalités, mais comme c'est JS, je vais pas m'étendre dessus, mais il y a notamment la preview des définitions TypeScript qui arrive avec ce compilateur. Et puis il y a certaines API qui arrivent en fin de vie, hein, des cycles de dépréciation qui arrivent à leur bout. Donc par exemple l'API coroutine expérimentale, elle est définitivement remplacée par l'API coroutine. Si vous vous servez encore de l'expérimental, néanmoins pour le moment il y a toujours un artefact de compatibilité qui est dispo. L'opérateur mode qui était disponible sur les types numériques, lui il a été remplacé par la fonction rem en 1.1, il dégage définitivement. La conversion des floats en bytes ou en short ne peut plus se faire directement. Ça introduisait trop de bugs, donc on repasse par fait de manière traditionnelle. On caste d'abord vers un int et puis ensuite vers des cibles.
Et, en tout cas, depuis février, moi j'ai ressorti mon short.
Mais tu as bien fait. Je suis heureuse de savoir que tu profites de tout le bien qui arrive malgré tout en cette période.
Voilà.
Et puis l'API de réflexion, elle ne contient plus que les membres qui sont dispo pour les trois plateformes cibles. Donc pour rappel, la JVM, JS et native, de façon à être sûr que le code fonctionne partout de la même façon. Voilà.
Ok. Alors juste, tu sais, c'est toi qui voulais des épisodes de moins d'une heure, donc on va raccourcir par.
Pardon.
Par sujet un petit peu.
Si non, mais après, il y en a plein où je peux aller vite, si tu veux.
D'accord, ça marche. Oui, mais il y en a d'autres, non. Genre loi, société, organisation. Donc,
c'est mort. J'anticipe.
Bon, voilà, exactement. On va parler des librairies. Dans lequel, alors, bon, je suis en train de... Avant, on avait la notion de librairie, la notion de middleware, mais en fait, c'est quand même assez confus, les limites. Donc, j'ai tout mis dans librairie, cette fois.
Moi, j'appellerais ça un framework.
Ouais. Ouais. Ouais, il y en a qui s'appellent explicitement pas des frameworks. Alors bon, bref, mais peu importe.
Ouais.
Spring Framework pour le coup, qui s'appelle comme ça. La 5.2.5 est sortie avec 50 fixes et autres améliorations.
Et le support du JDK 14, en fait, surtout ça.
D'accord, ouais. Voilà. Sachant qu'il faut... C'est quoi SM8 Experimental, ça dit quelque chose ? Est-ce qu'il faut activer des choses ?
Non, j'ai pas...
Ah non, c'est pour les Java Record. Ok, non, c'est un truc spécifique. Voilà. Du coup, derrière, il y a Spring Boot... c'est pas lié, mais il y a Spring Boot 2.3 en Milestone 4.
Si, parce que c'est un release train, en fait, mais... Si.
D'accord. Et on en avait parlé un petit peu, mais c'est le support des liveness et readiness probes qui sont qui ont été qui marchent du coup bien avec Kubernetes, parce que Kubernetes a ces notions là construire des images en format OCI, donc qui est le format standard derrière Docker, c'est Open Container Image, un truc comme ça,
je crois, oui, t'as même.
Voilà. Et puis les constructions des layer jars pour que la construction justement des images Docker puisse aussi être construite en étage. C'est ça ? J'ai oublié un truc ?
Non, c'est principalement ça. C'est ces deux états, le liveness et le readiness, qui sont disponibles via une classe qui s'appelle Application Availability Provider. Et l'actuateur, en fait, c'est faire le pont entre cette classe et Kubernetes.
Sinon, il y a Eclipse. Alors, l'équipe Vertex travaille beaucoup à la version 4, mais en attendant, ils ont quand même aussi réalisé une 3.9 avec du travail autour d'une API client SQL dite Fluent, qui vous permet d'écrire, de passer votre requête SQL et puis après de d'enchaîner les opérations que vous voulez faire dessus. Ils ont backporté le client Redis qui avait été implémenté sur un Vertex 4, et donc ils l'ont backporté sur le Vertex 3.9.
Alors l'idée avec le backport, c'est de permettre aux utilisateurs de la tester. Donc surtout, n'hésitez pas à faire des retours à l'équipe. Je pense que c'est ça qui les intéresse avec ce backport.
Ouais. Mise à jour du Kafka Client en version 2.4. Voilà, après il y a d'autres choses qu'ils ont fait, notamment la mise à jour de la version de Netty, à la 1.4.1. Il y avait d'autres gros thèmes, en tout cas j'imagine, donner leur du feedback, et puis c'est une version mineure supplémentaire, donc j'imagine que ça vient aussi avec des corrections de bugs.
Ouais, et surtout avec beaucoup de warnings sur les API dépréciés, qui seront en breaking change à partir de la 4.0, donc jetez-y un œil quand même si vous êtes en 3.9 et que vous envisagez le passage à la 4.0 dès qu'elle sort, ça vous évitera des mauvaises surprises.
Ouais. Ensuite, Micronautes a sorti non pas une milestone, mais deux milestones.
Milestone,
c'est nous qui sommes plus trop à la... on n'est pas assez rapide, en fait, c'est ça, dans ce monde moderne.
Il y a donc le support de HTTP2, donc c'est juste au niveau configuration qu'on peut facilement activer ce support-là. Et c'est marrant parce qu'on va vers l'avenir, mais on va aussi vers le passé. Par exemple, on peut faire tourner du Micronautes dans un servlet container, alors que normalement, Micronautes tournait tout seul avec du Netty. Donc, ça peut être pratique aussi. Et puis, beaucoup d'améliorations sur le content negotiation. Ça, c'était dans la M1 et dans la M2. Je crois que c'est là où il y a le support amélioré de Maven. Donc, même si les gens de Micronautes préfèrent Gradle, en tout cas, il y a un nouveau support amélioré de Maven, en particulier pour faire du live reload. Donc, dès qu'on fait des changements, ça relance automatiquement. Donc, au niveau de l'expérience développeur, c'est bien amélioré. Et puis aussi, au niveau de l'intégration des réactives, il y a le choix sur Eric Java 1, 2, 3 Reactor. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà dans ces deux milestones.
Et il y a une petite subtilité qui peut intéresser certaines personnes, c'est qu'ils ont remplacé l'utilisation de la JSR 305 par Spotbugs pour la gestion des annotations nullable et not null.
Ok.
Toujours ces histoires de licence et tout ça, donc ils ont simplifié. Les...
C'est quoi Spotbugs du coup ?
Tu te rappelles de... Merde, comment il s'appelait avant le truc Findbugs ?
Ouais.
Et maintenant il s'appelle Spotbugs. Et en fait, quoi déjà l'histoire ? C'est des problèmes de licence ? C'était quoi exactement ? Je sais plus.
Ah oui, non, sur ce. Je sais pas, sur Findbugs.
Enfin voilà, j'ai pas trop suivi cette histoire-là. Pourtant, c'est marrant parce qu'on l'utilise beaucoup partout, ce truc-là. Et bon, il faudra que je regarde à l'occasion.
Une petite correction sur ce que tu as dit, c'est pas le faire tourner dans un moteur de servlet, c'est faire tourner un moteur de servlet dans Micronauts.
Ah, bah,
donc pour putain, supporter, pour déployer des servlettes en fait.
Ah, j'avais même pas fait gaffe, j'avais cru que c'était l'inverse, tu vois.
Non.
Bien vu.
Non.
Bien vu.
Et l'autre truc, c'est qu'ils ont changé leur modèle de threading. Avant, ils avaient un truc magique qui détectait si vous vouliez faire tourner vos opérations sur ce qu'on appelle la event loop de Netty. Et donc celle-là, faut pas la bloquer, sinon c'est la panique. Ou en mode bloquant, c'est-à-dire sur un worker pool séparé. Et là, je crois qu'il y a pas mal de retours, ce qui fait que maintenant c'est explicite. Donc vous choisissez explicitement si vous voulez faire tourner cette méthode-là ou ce contrôleur-là sur l'event loop ou sur le worker thread. Donc ça dépend si vous avez des API bloquantes ou pas bloquantes dans vos appels, en fait. Voilà. Quarkus aussi, donc a réalisé non pas une, deux, mais trois versions. C'est la course.
Yes.
Non, il y a.
Oui, tiens, il y a une nouvelle bannière AsciArt. C'est ça le véritable, ouais. Hein, la véritable annonce.
Ouais, c'est ça en fait. Tu sais le nombre d'énergie qu'on a passé là-dessus.
Ah bah j'imagine.
Il y a des gens qui étaient complètement contre.
Les débats internes.
C'est ce qui a enflammé le plus toute l'équipe, j'imagine. Ouais.
Oui, donc Quarkus 1.3 est sorti. C'est une grosse, c'est quasi une 2.0 pour moi, puisqu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette 1.3? Alors déjà, le class loader a été unifié entre le mode dev, le mode test et le mode prod, ce qui ouvre la voie à simplifier et à permettre le démarrage dans une application main et le démarrage dans l'IDE de Quarkus, qui était un truc qui était pas super facile à faire nécessairement. Voilà, on est passé de deux event loop vertex à une. Ça paraît petit comme ça, mais l'idée, c'est d'éviter d'avoir de consommer trop de ressources. On avait encore une limitation là-dessus. Maintenant, on a une seule event loop vertex qui est commune à tout le monde. Et donc ça va permettre des gains de pipelining des opérations. Donc ça, c'est un gros travail, mais du coup, on est content que ça soit derrière. La fameuse bannière, ASCII. On a le support de Mutiny maintenant, qui est donc tu parlais de Eric Java 1.2.3. Donc on a Smallrail a sorti une librairie qui s'appelle Mutiny dont l'objectif, ouais, c'est nouveau, hein. Dont l'objectif est c'est pareil, c'est une librairie réactive qui est là pour avec comme objectif d'essayer d'avoir des API plus user friendly pour les gens qui sont pas non plus nécessairement experts de réactive, qui avec la liste enfin il y a beaucoup d'opérateurs en fait. La partie réactive, il y a des types de type publisher ou voilà des choses comme ça, mais après surtout il y a énormément d'opérateurs et voilà, c'est quels sont ces opérateurs et comment ils sont exprimés, là où Mutiny essaie d'amener de la valeur. Voilà. Pas mal d'améliorations de déploiement sur Kubernetes et sur OpenShift. On a vraiment retravaillé ces fameuses extensions pour vous simplifier la vie, et y compris sur la création des images, donc que vous vouliez utiliser Docker ou Jib ou voilà, il y a un certain nombre d'autres. Donc il y a eu pas mal d'améliorations là-dessus. Eclipse Microprofile 3.3 avec les améliorations qu'il y a eu dessus, notamment autour de config, fault tolerance, health et métrique de mémoire. Voilà, et pas mal d'autres
choses. Support de GraalVM20 aussi.
Oui, support de GraalVM20, Liquibase aussi, il y a pas mal de gens qui demandaient. Reactive Mongo with Panache, donc utiliser Panache, l'approche Panache, mais pour Mongo. On a fait des changements autour de Hibernate ORM, donc des petits ajustements. Il se trouve qu'on a eu de la régression, donc utiliser la version 1.3.2, où on a du coup améliorer le temps de démarrage quand vous utilisez Hibernate et la consommation mémoire de 5% chaque, donc c'est plutôt cool, ça c'est en mode JVM. Voilà, bon, et plein d'autres choses, donc continuez à regarder Quarkus 1.3, et puis là 1.4 est prévu pour la fin du mois, je crois. On va passer à l'infrastructure avec pas mal de choses autour de Docker.
Ouais, l'équipe Docker s'est bien lâchée, là, ils ont fait un gros...
Mais quel morceau de Docker, alors?
Alors,
Docker canal historique.
Ouais, plutôt canal historique, hein, vu que l'autre partie est partie chez j'ai plus le nom, Mirantis, voilà. Alors il y a le déjà il y a Docker Awesome Compose. En fait les Awesome c'est comment je vais expliquer ça? Ce sont des
c'est génial non si c'est Awesome.
C'est génial, tout à fait. En fait c'est un tag qui est apparu sur GitHub. L'initiative c'est de dire on va faire de la curation de contenu intéressant sur tous les sujets. Donc il y a le repo Awesome. Le repo principal liste toutes les ressources awesome sur toutes les technos qui peuvent vous intéresser. Et donc là, Docker a sorti le sien sur Compose. Donc vous allez avoir des listes d'exemples pour intégrer des services et puis les déployer. Donc il y a plein de trucs. Il y a du Go, il y a du React, il y a du Spring, il y a tout ce que vous voulez.
Souvent awesome, c'est des liens vers genre tiens, oui. Je sais pas moi Spring c'est awesome, donc il y a un lien vers Spring, Hibernate voilà. C'est awesome, il y a un lien vers Hibernate, donc t'as Java awesome qui va lister ça. Mais là c'est des exemples, c'est plus que juste des liens vers des librairies, c'est des exemples de tiens je déploie Docker avec Spring ou des Docker avec Redis plus je sais pas quoi.
Et puis il y a Docker GitHub Action qui est arrivé également. Alors c'est assez intéressant parce que en fait l'équipe s'en est servie pour améliorer ses propres workflows. Et puis elle a aussi beaucoup regardé comment les utilisateurs se servaient de GitHub Action avec Docker pour proposer ce GitHub Action. Alors là par exemple le premier qui est dispo c'est un build push action. Donc on tag l'image avec le chat pour qu'elle soit facilement réutilisable dans des flows CI/CD par
Qu'est-ce
exemple.
Qu'est-ce que ça veut dire taguer avec un chat C'est ça.
Ensuite, l'image est labellisée, pardon, en suivant justement la spec Open Container Initiative dont on parlait tout à l'heure. Ça supporte le passage d'arguments pour le build time et les targets multistage, parce qu'en fait, voilà, ils ont hésité entre faire des actions petites qui pouvaient se chaîner ou en faire une plus grosse. Et en fait, ils se sont aperçus que les utilisateurs avaient souvent tendance à faire un grosse action, à passer pas mal de paramètres et à faire toutes les étapes dont ils avaient besoin. Donc, ils ont pris cette option-là aussi. Et puis, à la fin, vous avez un push filter qui va permettre de configurer quand builder l'image et puis quand la pusher. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau et l'équipe est vraiment très preneuse de feedback et de contributions. Donc, n'hésitez pas à leur faire des retours.
Tu vois, les cascodeurs utilisent les pop filters et eux, ils ont des push filters.
Eh ben ouais, chacun son truc.
Chacun son truc.
Et puis, enfin, ils ont annoncé la Compose Specification, là, cette semaine. Donc, c'est... en fait, ils partent du constat qu'il n'y avait pas de spec publié sur comment est-ce qu'on définit des apps multicontainers. Donc, l'objectif, il est de créer un nouveau standard et de plus seulement avoir un standard qui, de facto, est complètement lié à l'implémentation des plateformes sur lesquelles ça ship. Leur objectif, c'est d'avoir une gouvernance ouverte et de recueillir des besoins d'un peu partout pour la direction future justement à prendre pour cette spec et les outils qui l'accompagnent et l'intention finale on va dire serait de soumettre la spec à une fondation open source. Voilà.
Ouais parce que je me suis étonné parce qu'il y a justement la Open Container Initiative OCI hein, qui était là qui a déjà standardisé comment ça s'exprime dans le container, ce qui fait qu'on peut avoir Docker comme moteur, ou Mobi qui est la version pure open source et Cryo et j'imagine que j'en passe des meilleurs. Et du coup là ils ont j'imagine préféré pas la pousser tout de suite dans la fondation et commencer
Je sais pas mais je connais des gens à qui on pourrait demander un petit crowdcast pour nous en dire plus.
Ouais ça serait cool. Surtout qu'ils ont du matériel encore mieux que le nôtre. Que tu penses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils... Alors, je ne sais pas comment les autres acteurs du marché, notamment les gens autour de Kubernetes, vont embrasser la chose, mais c'est vrai qu'il y a un problème de comment est-ce qu'on passe du « mon dev » entre guillemets en local à « mon déploiement en prod ». C'est encore... voilà, il y a encore de la friction, il y a des outils qui est 3S pour simuler ça, où il y a Docker Compose. Et là, ils essayent de définir, voilà, quel est l'objectif et d'essayer d'avoir une spec qui définit à la fois le déploiement local, mais qui se scale au déploiement, entre guillemets, en prod, qui serait une façon de dire, bah voilà, mon appli, en tout cas, la partie que je veux décrire, elle décrit le déploiement d'une appli, plus une base de données, plus, je sais pas, un moteur de messaging. Et j'exprime ça avec des contraintes. Je veux persister à tel endroit, etc. Donc, moi, j'aimerais bien que ça prenne de manière globale, que ce soit ça ou une autre, mais que du coup, voilà, on essaie de converger en termes industriels, enfin, de l'industrie là-dessus. En tout cas, initiative très intéressante.
Et justement, ça nous fait un enchaînement parfait avec Kubernetes 1.18.
Attends, c'est un autre métier, madame.
C'est ton, mais j'admire. J'ai un profond respect pour ce que vous faites, monsieur. Alors, Kubernetes 1.18, intitulé Fit and Finish. En fait, il y a eu beaucoup de travail pour améliorer des fonctionnalités qui étaient déjà existantes et puis en amener également de nouvelles. Donc, par exemple, dans ce qui va passer à stable, on a le kubectl diff, on a l'API server dry run, il y a le support GMSA des workload windows, vous en avez parlé dans un épisode précédent. Dans ce qui arrive, il y a maintenant le Topology Manager. Alors ça, c'est en bêta. Il permet d'aligner justement le fameux NUMA dont on parlait tout à l'heure avec les devices pour l'exécution sur des environnements avec une latence assez basse. Le Server-Side Apply, lui, il passe en bêta. Enfin, il arrive en bêta, du coup. Cette version, elle permet... donc ça, c'est pareil, je crois qu'on en avait parlé dans un épisode précédent, si je ne me trompe pas. Et la version bêta permet de savoir qui a modifié les champs de vos objets Kubernetes et quand. Ingress voit apparaître un nouveau champ qui s'appelle PassType et qui va permettre de préciser comment les passes doivent être matchées, avec notamment des objets exacts, préfixes, des choses comme ça. Et puis, on a une Ingress class qui vient remplacer la notation ingress.class qui, elle, est dépréciée. Et enfin, et ça, j'ai trouvé ça super chouette, il y a une commande kubectl alpha debug qui va permettre de lancer des containers temporaires à côté de vos pods pour les examiner et d'attacher une console pour faire du troubleshoot. Donc, c'est une alpha, mais ils sont preneurs justement de retour là-dessus.
En fait, les containers éphémères, c'est un concept qui mature, enfin qui bouillonne pas mal depuis ces temps-là, qui est un peu la solution magique pour essayer de dire en dev, j'ai besoin de choses pour contrôler, donc je veux un container éphémère à côté de mon autre container dans le même pod pour faire des choses. Et puis après, bah, en prod, il vit sa vie. Du coup, là, c'est un outil de CLI pour aider autour de ça.
Voilà. Et puis, dans la... continuité, on va dire, du sujet Kubernetes. Il y a un nouvel outil de management de cluster, justement, Kubernetes, qui s'appelle Fleet, qui vient d'être lisé. Ça suit le modèle... Alors, l'idée, c'est de prendre la façon dont Kubernetes déclare et gère ses objets, mais de l'emmener au niveau d'au-dessus. Donc là, on va pouvoir définir des bundles avec des configurations spécifiques qui, ensuite, deviendront de la même manière que vous définissez vos pods. Mais là, ça va devenir des clusters entiers. Et donc, il se base sur l'expérience de Rancher, hein, puisque c'est la même boîte. Rancher étant une app justement de management de multi-cluster unifié. Et aussi l'expérience de 4OS, on en parlait tout à l'heure, qui est une 4OS, c'est une distribution, c'est une sorte de mini-distribution un peu, on pourrait dire ça comme ça, de Kubernetes, qui elle est plutôt orientée IoT, Edge Computing.
Ouais, c'est ça, c'est déployé sur des petits devices.
Voilà. Ouais, et et justement, il y a notre ami Philippe Charrière qui a fait une suite d'articles assez sympa qui s'appelle « Kit de survie Kubernetes pour les développeurs avec 4OS ». Et parce que lui, il avait une grosse frustration, c'est qu'il n'arrivait pas à... Il voulait arriver à comprendre vraiment comment fonctionnait Kubernetes, à le maîtriser, et puis c'est un peu rébarbatif. Et donc, il s'y est mis avec 4OS, justement, et il publie son... J'ai bien aimé son approche, en fait, puisque c'est très graduel, vous pouvez le suivre comme un hands-on. Il va petit à petit, il va automatiser le déploiement, il va utiliser un registre privé, ensuite il va l'utiliser pour la sauvegarde des données dans une base Redis, il va servir du Discovery backend pour lancer des microservices Vertix, et en fait tout ça il le fait étape par étape, donc c'est vraiment une bonne introduction je pense, si vous voulez mettre la main à la pâte.
Ouais, et Fleet en fait c'est effectivement gérer des clusters comme si c'était un seul cluster. Donc, en fait, avoir des clusters qui sont tous miroirs, c'est passage à l'échelle, en fait, en nombre de clusters Kubernetes. Voilà, on va passer au cloud, avec un cloud de librairie, du coup. Guillaume, j'imagine, non ?
Ouais, je sais plus, c'est moi qui l'ai mis. Enfin, pas... Donc, on a notre ami Jean-Michel Doudou, le plus doux des traducteurs, hein, qui nous a traduit un article sur InfoQ, la version française, un tutoriel Spring Boot, la création de microservices, mais déployé sur Google Cloud, donc en utilisant GKE, Google Kubernetes Engine, Spring Boot, Jib aussi pour packager les applications avec des layers différents pour les dépendances, le code, etc. Et puis voilà, déployer tout ça, comment configurer ça sur Google Cloud Platform. Et puis également, alors attends, il y a aussi Scaffold, l'utilisation de Scaffold, dont notre ami David Gajou est un des papas, pour faire tourner tout ça en local, avoir une expérience développeur locale agréable. Voilà.
Et il n'y a pas à dire, les blagues aussi, c'est un métier.
C'est certain.
Pourquoi tu dis ça?
Doudou.
Jean-Michel Doudou, le plus doux des traducteurs. Ah,
Doudou.
Je l'ai laissé finir. Hein, mais...
La petite pause, le plus doux des petites pauses traducteurs. Là, c'est travail. On va passer au WEM, on va voir si Audrey fait aussi bien. Mais d'abord, what? NPM racheté par GitHub,
oui,
déjà racheté par Microsoft. Wow. Non, mais...
oui.
Qu'est-ce qui se passe?
Mais c'est fou, ça va à une vitesse, c'est tout fou. Ça, voilà. Donc, alors on vous a mis deux articles, on a mis l'annonce par NPM, mais aussi l'annonce par GitHub, parce que l'annonce par NPM, c'est plutôt le point de vue du créateur, du papa de NPM, en fait, et de son parcours aussi à lui en tant que créateur de boîte. Donc, les informations essentielles à retenir, c'est que la plateforme va rester gratuite. En fait, pour les utilisateurs finaux, ça devrait pas changer grand-chose. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que GitHub a l'intention d'investir côté infra et plateforme pour s'assurer que NPM soit rapide, soit fiable, soit scalable. Ils vont aussi travailler sur l'amélioration de l'expérience à la fois des développeurs, mais aussi des mainteneurs, avec des améliorations à venir sur la publication, l'expérience d'authentification multifacteur, des choses comme ça. Il y a beaucoup de travail justement sur la partie sécurité, et en particulier la partie sécurité des projets open source. Donc, notamment le fait d'intégrer NPM dans GitHub, ça devrait permettre de faire le lien entre une pull request et la version de package NPM qui fixe, qui corrige la faille de sécurité qui a été relevée. Et puis juste le petit détail pour les clients payants, c'est que la partie payante, les packages pourront être déplacés sur GitHub Package dans le courant de l'année. Donc à terme, ça permettra à NPM de se concentrer sur le fait d'être juste un registry. Voilà, donc ça devrait pas changer grand-chose. Par contre, ça va assurer une certaine un futur stable à la plateforme. Et puis, ouais. Deno a été annoncé en 1.0. Alors, Deno, en fait, c'est un runtime JavaScript et TypeScript qui se base alors sur principalement donc le moteur CV8, et puis c'est au niveau du code, c'est beaucoup de Rust, du JavaScript, du TypeScript et Tokyo pour l'event loop. Donc Tokyo, c'est écrit en Rust d'ailleurs. Ça a été annoncé et c'est écrit par Ryan Dahl, qui est le papa de Node.js. Donc ça, il l'avait annoncé en 2018.
C'est marrant parce que, attends, juste pour info, Tokyo, ouais, c'était une base de données.
C'était autre chose,
non?
Ouais. Alors là, c'est avec un i. Hein. Alors je sais pas si c'était avec un i aussi.
Ah, c'était Tokyo Cabinet.
Voilà, ouais. Mais c'est pas le même Tokyo, là.
Non. Pardon.
Voilà, pas mal.
Tu te fais des nœuds au cerveau.
Ouais. Non, j'étais déjà en train de réfléchir si c'était bien le nom du personnage dans Cars. Donc, tu vois,
d'accord.
Dans Cars 2.
Ça va, vous vous ennuyez pas trop pendant la rubrique web, tout va bien?
Non, non, on attend
non,
la partie.
Non, ça va, on regarde Disney Plus en parallèle.
Donc ouais, en fait, Ryan avait donné un talk il y a 2 ans qui s'intitulait « Les 10 choses que je regrette à propos de Node.js » et évidemment, Deno est un petit peu là pour venir corriger ces choses, ces regrets qu'il avait, parmi lesquels il y avait le fait de pas avoir utilisé l'API promise, il y avait le design du système de modules et de distributions centralisées qui regrettait, le package.json et puis le manque de sécurité. Et donc là, la première release était le 13 mai 2018 et la nouvelle release arrive très bientôt. Alors c'est pour vous donner un petit peu des features clés. Dans ce que ça vient corriger, notamment par rapport aux regrets qu'il avait, là, le compilateur TypeScript, il est embarqué d'office. Donc la compilation JS va être faite et s'exécuter directement dans le moteur V8 derrière. Le code, pour corriger justement ce problème de sécurité, le code est exécuté en bac à sable par défaut, et donc le runtime n'a pas accès au réseau aux variables d'environnement, au file system, à l'exécution des autres scripts, bref, à tout ce qui pouvait poser problème en Node. Et on oublie complètement ce système de modules et de repositories centralisés. Donc, on va déclarer les modules à importer avec le mot-clé import des modules ES. Donc, pareil, on dit adieu à CommonJS. Ça va nous permettre donc de nous débarrasser du package.json, de nous débarrasser de npm et des nmodules. Les modules importés, ils vont être téléchargés et mis en cache au démarrage. Et donc la recommandation, parce que bien évidemment, ça fait que ça vous rend un petit peu plus dépendant de l'état de fonctionnement des librairies que vous utilisez. Donc la recommandation, c'est de les gérer. De gérer vos packages avec le reste de vos sources, en fait. Et pour le package versioning, d'inclure le numéro de version dans l'URL. Et puis, ça supporte aussi l'import local. Voilà.
C'est pas faux. petite question, quand tu dis gérer les packages dans le versioning, tu parles d'un truc à la Go où tu copies les sources ou une autre chose?
En fait, c'est que non, c'est-à-dire j'ai du mal à m'exprimer. Si tu veux,
pour... ça c'est ce qu'elle dit du genre, tu as rien compris quand même, j'ai du mal à m'exprimer.
Mais c'est poli.
Non, c'est que je pense réellement que j'ai pas été clair en fait. Je me dis que j'ai pas dû être clair sur cette partie. J'ai dû aller trop vite pour ne pas avoir de conflit avec les. Enfin, tu vois, pour être sûr de toujours être sur la version de la librairie que tu veux utiliser. Plutôt que de mettre juste l'URL de ta librairie, lui, il recommande plutôt de mettre l'URL de la librairie avec le numéro de version inclus dedans.
Ah oui.
Et comme ça, tu es sûr que tu pointes sur celle que tu cibles. Voilà. Parce que évidemment, ça avant, on le déclarait dans le package JSON, on lui donnait les versions. Donc là, il faut trouver un autre moyen de le gérer.
D'accord. Angular.
Oh. Ouais, alors Angular 9.1. qui est c'est une petite release en termes de fonctionnalité, mais une grosse release en termes de bug fixé. Il y a un petit côté Apollo, j'aime bien. Ce qui s'est passé, on en a parlé dans les précédents épisodes, l'équipe a travaillé sur le compilateur Ivy, qui est le nouveau compilateur et qui a été livré dans une version précédente. Et l'équipe a passé énormément de temps, en fait, à faire des retours, des corrections qui sont relatives aux bugs qui ont été relevés par les utilisateurs qui avaient déjà migré. Ce qui fait qu'effectivement, il y a eu peu d'issues qui ont été traitées ces derniers temps, mais en même temps, il y en a une bonne partie d'entre elles qui deviennent, de facto obsolètes parce qu'elles sont traitées par Ivy. Donc, là, maintenant, les autres vont être triées et sont dépilées petit à petit. Dans les gros apports de cette version, il y a le support de TypeScript 3.8. Il y a, ça je trouve ça, c'est anecdotique mais c'est sympa, il y a la locale pour le I18N qui supporte maintenant l'information right to left ou left to right, donc RTL ou LTR, pour pouvoir indiquer le sens de lecture du contenu. Le NGC, donc NGCC pardon, qui est c'est le compilateur qui s'occupe de la compatibilité des dépendances de l'application avec Ivy. Il est maintenant plus rapide, plus fiable et plus précis, ce qui est une bonne nouvelle, en particulier pour ceux qui buildaient sous Yarn, parce que comme Yarn supprime tout le non-module à chaque build, en intégration continue, c'était un peu la plaie. Et puis, ZoneJS, on en avait parlé également, ZoneJS, c'est une librairie qui était externe et qui a été ramenée dans le projet Angular il y a quelques versions de ça. Elle est release en version 0.10.3. Donc en fait, ZoneJS, c'est la partie qui... s'occupe du contexte d'exécution qui va être persisté au-dessus des tâches asynchrones. Donc on pourrait le voir un petit peu comme un thread local storage pour des VMJS. Et donc là aussi, il y a eu pas mal de choses, notamment le support de Jest, qui est un framework de test et qui n'était pas très très bien géré auparavant.
Les gestes barrières, bien
tout
sûr.
À fait, les gestes barrières. Et les gestes barrières, ça inclut notamment de continuer à importer le preset Angular. Ça gère également la Channel Message API. Donc, si votre application écoute des messages, en fait, maintenant, le callback va pouvoir être traité dans la zone. Et puis, l'ajout d'une variable globale pour déclarer les événements passifs. Donc, ça, c'est les événements qu'on souhaite traquer, mais qui arrivent un petit peu trop souvent, comme un scroll, par exemple. Donc, c'est une manière de les gérer sans ralentir l'application. Voilà. Et comme habituellement, avec une nouvelle version d'Angular arrive une nouvelle version de la CLI, qui apporte principalement le support de TSLint 6.1, ce qui peut paraître un petit peu bizarre parce que TSLint est déprécié depuis sa version 6.0, mais l'équipe prévoit de passer sur TypeScript ESLint dès que possible, mais comme on va dire que c'était pas le plus prioritaire là. En attendant, ils supportent TSLint 6.1. Par contre, il y a des breaking changes dans la config avec la 6.0. Donc, la configuration du fichier tslint.json a été mise à jour et vous pouvez exécuter manuellement la migration avec la commande qui va bien si vous souhaitez pas attendre la 10.0. Voilà.
Merci Audrey.
J'ai pas fini, hein. Il m'en reste une, mais je comptais sur toi pour me faire un petit lancement.
Ouais, mais justement, je peux faire un petit lancement, voilà. C'est rigolo parce qu'effectivement, Wikipédia qui est bon, qui évolue pas non plus tous les jours, un en termes technologiques et deux même au niveau UI. Là, ça faisait pas mal de temps qu'ils réfléchissaient au prochain framework pour leur front-end, pour leurs besoins front-end et d'être un peu plus moderne en termes d'interaction utilisateur. Et du coup, il y a eu une discussion autour de Vue et de React, donc les autres étant été éliminés. Ça fait longtemps qu'on entend parler de cela. Hein. Qu'est-ce qui se passe au niveau JavaScript là? Il n'y a pas plus de révolution.
Ouais, mais ça stagne un peu. Ouais. Ah, enfin,
en tout cas, ils ont choisi Vue. Et pourquoi?
Alors, pour donner le contexte, l'application actuelle, elle a 10 ans. C'est du jQuery avec un framework maison. Donc là, effectivement, il faut penser à la réécrire. Et donc, quand c'est comme ça, il y a un comité en fait qui travaille sur une recommandation. Et donc, ils ont évalué un peu toutes les solutions qui existaient. Angular, Ember, ils se sont dit c'est pas assez flexible.
Comité scientifique.
Tout à fait. Svelte, Inferno, Preact, ils les jugeaient pas assez populaires. Donc, ils ont retenu Vue. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a un meilleur support des outils de build comme Webpack et Babel. Parce qu'ils ont jugé qu'il y avait moins de dépendances en utilisant Vue qu'en utilisant React, et puis que l'évolution était plus stable. Mais on va pas se mentir, il y a aussi un truc qui a fortement pesé contre React, c'est sa parenté avec Facebook, qui a été considéré comme problématique, même si le projet a été passé sous licence MIT en 2017. En fait, le rapport stipule que Vue.js a l'avantage de ne pas être menée par une seule compagnie dont les objectifs peuvent diverger à terme de ceux de Wikimedia. Et
moi, je rajouterais que effectivement, historiquement, Facebook a pas été extrêmement fidèle à ces projets qu'ils ont open sourcé en fait, parce que leur métier c'est pas éditeur, ou en tout cas les développeurs de notre type sont pas vraiment leur target principal, même s'ils sont intéressés à avoir des gens qui développent autour de leur plateforme. Et du coup, ça se ressent un petit peu qu'effectivement, il n'y a pas un alignement nécessairement 100% dans le temps. Voilà, il y a un certain nombre d'exemples, mais Cassandra notamment, ou qui a été heureusement repris par d'autres. Mais voilà, du coup, j'imagine que c'est assez légitime de cette
Je trouve l'interrogation complètement légitime aussi, hein, effectivement. Alors par contre, ça a créé pas mal de controverses. Donc la proposition, elle a été adoptée, mais je sais pas trop comment ça va se passer. Mais l'article dit que ça va, c'est pas pour autant que tout est réglé, parce que y a beaucoup de voix qui se sont élevées contre ce choix. Il y avait des gens qui défendaient React en disant qu'il fallait prendre en compte aussi bien les besoins des utilisateurs que ceux des développeurs. Donc je pense que ça, c'était en termes de fonctionnalités plus avancées qu'ils auraient pu amener. Et puis ce que je trouvais intéressant, parce qu'effectivement je comprends pas pourquoi ça a pas été évalué dans l'étude de départ, il y a des voix qui ont dit mais pourquoi on n'utilise pas les web components, puisque c'est un standard HTML maintenant, donc c'est un standard du web, c'est débile de pas partir là-dessus. Donc c'est une affaire à suivre.
Ouais. Bah après, ils vont peut-être décider de réécrire tous les mois et demi et pas tous les 10 ans.
Ouais, c'est une autre solution
au problème.
Moi, j'aime bien Vue, en tout cas. Je suis content qu'ils choisissent ça.
Ouais. On va parler outillage avec GitHub qui a sorti ou ressorti, en tout cas, sa version mobile, pour mobile, une application donc native pour, enfin native ou pas d'ailleurs, on sait rien, mais pour naviguer sur vos repos GitHub, mais depuis votre mobile ou votre tablette. Et je ne l'ai pas essayé, j'étais en train de la télécharger pour regarder justement, parce que j'avais été assez déçu de ce que j'avais pu voir jusqu'à présent en termes d'interaction. Et du coup, je voulais voir si ça changeait la vie. Vous avez essayé, vous ?
Non, je ne l'ai pas essayé.
Non, pas essayé non plus.
J'ai du mal à voir en fait l'intérêt d'avoir cette appli sur mon mobile. C'est pas, tu vois, relire une pull request, c'est pas un truc que j'ai envie de faire.
Tu fais pas ça dans les transports en commun, les trains ?
Moi, je le fais en fait, en l'occurrence. Pas sur le mobile, mais sur la tablette, ça m'arrive de faire les pull requests dessus. Mais la notion de messagerie GitHub, en fait, est fondamentalement un désastre pour moi, parce que j'ai trop de volume de trucs, et c'est trop compliqué d'arriver à filtrer proprement. Donc c'est toujours, en général, quand j'essaie d'utiliser GitHub en dehors de GitHub avec quelqu'un qui m'envoie explicitement un lien, c'est le problème que j'ai. C'est-à-dire que je m'y retrouve pas et qu'il m'affiche tous les bugs de... enfin, tous les issues de Quarkus et Hibernate et machin et truc. Et donc, au final, ben, c'est...
Et un, je c'est crois qu'effectivement, c'est un petit peu l'objectif de cette version, de ce qu'ils avaient, enfin, ce qu'ils avaient l'air de dire dans l'article, c'était justement de faciliter la tâche sur ton workflow de manière globale. Donc, tu nous diras, tu essaieras, tu D'accord, nous fais un retour.
Bah, je vais essayer, ouais, voilà.
Tu nous fais une petite vidéo unboxing.
Ouais, un retour. Ouais, il faut que j'achète une caméra parce que ma caméra, c'est mon téléphone, donc ça va être compliqué.
Un miroir, peut-être.
Un miroir. Oh, ben, ah oui, alors faut un... Ouais, faut plus qu'un miroir, même. Alors, calculons, quel est le nombre minimum de miroirs nécessaire?
On va demander des conseils à José Pomard parce qu'on va pas s'en sortir. Et puis, je vous ai mis un petit tweet en bonus. C'est juste une petite info qui est passée il y a deux jours, mais qui est sympa. C'est qu'on peut maintenant repasser une PR ouverte en draft sur GitHub. Donc, ça peut
être... Ah ouais, grave. C'est trop bien, ça.
Ouais, c'est trop bien.
Parce qu'effectivement, on pouvait passer une pull request en mode draft, qui est... Je veux du retour, mais n'essayez pas de la mettre dans master, parce que je veux pas, le code est pas fini. Donc, ça, c'est extrêmement utile. Ça permet aussi d'éviter potentiellement de faire tourner la CIA. Enfin, il y a un certain nombre de choses intéressantes. Et puis, on pouvait après passer de draft à version officielle de pull request. Mais on pouvait pas revenir en arrière. Et du coup, et c'était juste inconcevable.
Ah ouais, non, c'était
pas à ça. Et du coup, il y a des extensions qui s'appelaient Work in Progress, par exemple, qui permettaient plus ou moins de faire ça. Donc, c'est, tu rajoutais WIP dans le nom de ta pull request, mais il fallait installer ce truc-là sur l'organisation. Et donc là, maintenant, bah, voilà, on a viré WIP et on va essayer d'utiliser ça.
T'aimes plus le fouet, alors?
Voilà.
Attends, il est où le truc dans le... Non, c'est toi qui l'as, Emmanuel, pour faire le petit palam-tchim.
Ah là, le coup. Ah oui. Je sais pas si on l'a mis dessus.
Attends, si tu l'as, c'est sûr, mais je crois qu'il y a que toi qui l'as.
Oui, pas mal.
Ouais!
Ah si, c'est ça.
Maintenant, je sais que je vais faire une blague, je vais y avoir droit.
Bref. GitLab a sorti la 12.18.
12.8.
Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. 12.8,
je crois. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais noté. En fait, il y a un truc, enfin, il y a deux grosses fonctionnalités. La première, c'est le Log Explorer. C'est-à-dire que si vous avez la stack Elastic sur un cluster Kubernetes, vous allez pouvoir agréger tous vos logs à un seul endroit et vous allez pouvoir rechercher dedans avec des filtres, du time picker, de la recherche full text, des choses comme ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, ce qu'ils appellent le Compliance Dashboard. En fait, ça va vous permettre de traquer le cycle de vie de vos merge requests sur un groupe en entier. C'est-à-dire qu'avant, vous pouviez les traquer que projet par projet. Et là, si vous avez plusieurs projets qui sont sous GitLab, vous allez pouvoir traquer ça au niveau du projet global et ça va vous permettre d'identifier bah, justement quels projets sont à risque. Parce que, par exemple, il donnait des exemples, c'est quand tu veux définir des polices de compliance du genre... bah, quelqu'un qui a écrit une merge request ne l'approuve pas, ou les tests doivent passer, une merge request ne passe pas si elle a pas passé des tests de Q&A ou des choses comme ça.
Ouais, les trucs pour faire chier les équipes, quand même.
Ouais. Question de point de vue.
Pardon. non, pardon. Mais effectivement, pour des boîtes qui veulent mettre en place des garde-fous. Voilà. C'est fait pour ça. Sachant qu'ils ont aussi fait toute une, on l'a pas mis là, mais ils ont fait, c'est eux hein, qui ont fait toute une revue des fonctionnalités qu'ils avaient dans la version entreprise et la version communautaire, parce qu'ils ont un modèle open core en fait, et ils ont décidé de passer beaucoup de, enfin,
il y en avait un paquet, ouais, j'ai pas retenu le nom, mais il y avait beaucoup de fonctionnalités
qui ont passé 13, je sais plus, enfin bref, beaucoup qui sont passés de la version entreprise à la version open source et donc disponible pour tout le monde, enfin sans avoir à payer. Voilà, on essaiera de vous remettre l'article, en tout cas vous pourrez le rechercher. L'article était pas super bien écrit, donc on a décidé de pas trop se détailler.
Il était un petit peu indigeste, voilà, disons.
Ensuite, au niveau outillage, donc tout le monde est confiné, donc tout le monde se dit qu'ils vont faire des réunions avec de la vidéo, et donc tout le monde installe Zoom, parce que c'est le truc
c'est le truc pas du jour. D'installer.
Sauf que Zoom, nous, on savait, vous avez, Google, effectivement, n'a pas le droit d'installer Zoom sur leur système pour, déjà, on en avait parlé que Zoom, ils avaient une bonne faille de sécurité
nouveau,
ouais. Avec un serveur local qui écoutait sur, je sais plus quel port. Ouais. Et il se trouve que, donc, il y en a eu d'autres. Et donc là, comme ils sont passés de,
Je crois qu'il y en a deux ou trois.
Ouais, il y en a plus. Mais donc, non, mais je veux dire, ils sont passés à 200 millions.
Ils ont fait, ouais, ils ont fait un fois 20, en fait.
Par rapport à ce qu'ils avaient avant. Voilà. Et du coup, les gens, ils se sont dit, mais attendez, est-ce que c'est safe, ça? Alors déjà, Zoom, donc par défaut, d'ailleurs, comme plein d'autres, hein, BlueJean, etc., par défaut, on donne le lien et puis n'importe qui peut rentrer. Donc là, il y avait les instituteurs, institutrices qui donnaient le lien, voire sur un blog vu par tout le monde. Et donc, il y a des gens qui n'ont rien à faire pendant le confinement, qui allaient dedans et qui faisaient des choses pas très belles dans les salles de classe, du coup. le FBI s'en est même mêlé en disant, mais mettez un mot de passe sur vos... mettez un mot de passe sur vos chaînes, pas des chaînes d'ailleurs, des chambres, des rooms, parce que sinon, bah, n'importe qui peut y accéder, et du coup, bah, c'est, voilà, il y avait des gens qui étaient pas très habillés, des gens qui racontaient des choses pas très belles du tout, voilà. Mais au-delà de ça, il y a eu des failles de sécurité qui ont été annoncées, surtout quand on réfléchit, il y a un truc qui s'appelle No Limit Sécu, le dernier épisode qui parle pendant assez longtemps de Zoom, et en gros ce qui ressort, c'est que Zoom, ça a été fait dans un monde entreprise où globalement dans l'entreprise on a tendance à plus vouloir contrôler qui rentre, qui sort, qui fait quoi, etc. Mais dans un usage où ce sont des personnes individuelles, donc qui sont pas sous le même contrat dans la même entreprise, il y a des risques face à la vie personnelle et au leak d'informations. Du coup, Zoom a dit, bon, on arrête les fonctionnalités là pendant 3 mois et on se concentre sur la confidentialité et la sécurité. Ce qu'ils ont beaucoup fait là ces dernières semaines, c'est de désactiver des fonctionnalités qu'ils avaient avant. En fait. Le modérateur peut voir un peu trop de choses, on désactive, voilà. Donc, ils ont plein d'utilisateurs, donc j'imagine que ça fait pas mal d'argent pour eux, mais plein de problèmes aussi à gérer. Et du coup, voilà, ils sont un peu en mode réaction là-dessus. Oui, et Slack a sorti une nouvelle interface utilisateur. Alors moi, j'ai pas vu la différence, mais j'imagine que c'est important pour certains.
Si, tu la vois bien, notamment moi j'ai plusieurs espaces Slack et comme ils ont pas tous migré, tu la vois bien quand tu passes de l'un à l'autre. Après, effectivement, en termes de fonctionnalité, c'est pas dingue, hein. C'est surtout que vous avez la fonction de recherche qui maintenant, vous avez une belle barre de recherche en haut et puis vous pouvez organiser, ça c'est pas mal par contre, j'ai trouvé, vous pouvez organiser vos channels en sections et les ordonner comme vous voulez, comme vous feriez avec des dossiers, en fait. Voilà. C'est principalement ça. Et puis apparemment, vous pouvez lancer des actions dans d'autres applis via des raccourcis.
D'accord, ouais. Pas mal de menus contextuels là, à l'endroit où tu es censé vouloir faire des choses.
Et la possibilité d'écrire un message depuis vers n'importe où. Il y a un gros bouton « Compose » maintenant qui est en haut à gauche.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai que sinon, on a tendance à vouloir aller dans le canal qui nous intéresse avant de taper, alors que là, on commence à écrire soit une personne, soit le nom d'un canal. C'est un petit shortcut intéressant. Je trouve que Zulip, ils ont ça aussi. Ça, en tout cas, ça me dit quelque chose. Bon, en tout cas, ils n'ont pas résolu leur problème de fil de discussion. Donc là-dessus, circuler, il n'y a rien à voir. J'aimerais bien qu'ils améliorent, qu'ils réfléchissent sérieusement à ça, parce que c'est pas pratique. Voilà, alors on est où? Tac, tac, tac. Oui, ça pique un peu, mais on est tous confinés, il faut se lâcher un petit peu. Hein. méthodologie, Guillaume a passé toute la nuit à lire un super bouquin.
Alors, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, Google avait sorti, ça fait déjà quelques années maintenant, des bouquins sur le thème des SRE. D'ailleurs, je sais même plus ce que ça veut dire.
Site Reliability Engineering.
Site Reliability Engineering. Voilà, merci. Parce qu'en plus, là, ils viennent de sortir un troisième bouquin, et en fait, dedans, t'as aussi un S, un R. Mais en fait, c'était pas site, c'est secure. Enfin, bref. Donc, c'est Building Secure and Reliable Systems. Donc, par rapport aux deux précédents, les deux précédents volumes. Celui-là se focalise plus sur les aspects sécurité et reliability des systèmes de manière générale. Alors je ne l'ai pas lu, il vient tout juste de sortir, mais en tout cas il est disponible en PDF, en e-pub, en Mobi. Donc, vous pouvez facilement le télécharger et puis regarder
sur Google Books.
Ce qui se raconte. Et sur Google Books aussi, ouais, exactement.
Sachant que les anciens sont encore là et sont encore valables d'ailleurs. c'était des bonnes informations.
Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Donc le tout premier était plus sur les grands principes, le deuxième c'était un peu des recettes de cuisine, etc. Et ce troisième-là, c'est plus effectivement sur la sécurité. Donc il y a même un chapitre sur comment coder de manière sécurisée, etc.
Ouais.
C'est peut-être celui-là que je vais regarder en premier d'ailleurs.
Alors on passe à la loi société organisation, cette rubrique. Et la première, bon, c'est un peu un non-événement, mais c'est un symbole. C'est Bill Gates qui quitte officiellement le conseil d'administration de Microsoft. Donc Bill Gates, il a fondé Microsoft, PDG pendant la plupart de la vie de Microsoft. Ensuite, il s'est retiré un petit peu, mais il était encore président du directoire de mémoire.
Ouais.
Donc membre du conseil d'administration. Et puis il a fini par ne plus être président du conseil d'administration. Et puis maintenant, il quitte entièrement le conseil d'administration. Donc il n'a plus, pas à part des stocks, mais il n'a plus de lien exécutif du coup avec Microsoft.
Voilà.
Si je comprends bien.
Maintenant, son métier, c'est philanthrope à plein temps.
Voilà. Exactement.
C'est pas mal, philanthrope à plein temps.
Full-time philanthrope. Bah ouais, ça, ouais, c'est la grande tradition américaine, ça. alors là, j'ai vu Vice Versa il y a pas longtemps. Je sais pas si vous connaissez.
Oui, il est trop bien. Animé.
Voilà. Et donc là, c'est la colère qui arrive au contrôle. Non, vas-y. Je peux le dire, celui-là.
Oui, vas-y, alors, si tu veux.
Il y a des gens, ouais, qui ont construit une... En fait, je ne sais pas si vous connaissez la bibliothèque du Congrès américaine où il y a la plupart des livres publiés aux États-Unis, ils essaient d'en mettre. Et là, des gens se sont dit, on va faire une bibliothèque libre contre la censure, mais qui sera dans Minecraft. Donc là, ils ont littéralement construit une bibliothèque dans Minecraft et sur lequel on peut aller dans la bibliothèque et puis trouver des livres. Et il y a beaucoup de choses qui sont censurées dans un certain nombre de pays qui sont disponibles. Et donc l'idée, voilà, c'est d'un outil contre la censure où on peut aller sur la bibliothèque via un site web ou via Minecraft, et puis lire les livres qui ne sont pas disponibles normalement dans notre pays.
Alors c'est
la question, c'est comment ils pourraient pas bloquer ça éventuellement les autres pays. Ça, j'ai pas bien lu.
En fait, ce qui se passe, c'est pas tant des livres que des articles de journalistes en fait, puisque l'initiative elle était portée par Reporters sans frontières à l'occasion justement de la journée internationale contre la censure sur Internet. Et donc c'est dans des pays où en fait la liberté de la presse est très 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 restreinte, mais où Minecraft est encore accessible. Donc c'est l'Égypte, le Mexique, l'Arabie Saoudite, pour la Russie et le Vietnam. Ouais, voilà.
Ouais. Sachant que c'est la plus grande coupole du monde.
Ouais, ouais.
Ou la deuxième plus grande coupole du monde. Virtuelle, mais bon.
Et voilà. Et après, effectivement, bah, c'est-à-dire que si les États veulent empêcher l'accès à la librairie, il faut qu'ils coupent l'accès à Minecraft, mais encore que, parce que comme c'est... Ouais, je sais pas. Je connais pas assez bien le fonctionnement de Minecraft, en fait, pour savoir.
Ouais. Bon, en tout cas, c'est aussi un symbole. Donc
c'est une belle initiative.
C'est intéressant, ouais. pour aider à rappeler qu'il y a beaucoup de censure.
Et qu'il y a beaucoup de... il y a des morts aussi parmi les journalistes, que c'est un métier extrêmement dangereux et absolument nécessaire.
Ouais.
On rentre dans la partie vénère, ouais.
Voilà, la partie vénère. Je sais pas si vous vous rappelez, on a parlé de reconnaissance faciale, notamment dans le sud de la France, avec des gens qui essayaient de pousser ça dans des usages limites, enfin, ou assez triviaux, triviaux en termes de besoins au final. Notamment, c'était vérifier qui rentre et qui sort dans d'un lycée, je crois.
Dans deux lycées, ouais, de la région PACA.
Ouais. Voilà. Et donc, ça avait été décidé par je sais pas qui, mais du coup, ça a été.
Bah, en fait, c'est la région PACA qui, effectivement, avait pris cette décision et elle a été attaquée en justice par, entre autres, la Quadrature du Net, la Ligue des Droits de l'Homme, la CGT Éducation des Alpes-Maritimes, etc. Et le tribunal administratif a donné sa réponse le 3 février et il a reconnu, déjà que, en fait, il y a deux choses importantes, c'est que la délibération ne respecte pas le RGPD puisque, en fait, les élèves ne peuvent pas donner un consentement libre et éclairé du fait de la relation d'autorité qui lie les élèves à l'administration de l'établissement, ce qui est indispensable dans le RGPD pour pouvoir traiter des données personnelles. Et puis le tribunal avait insisté sur le fait que c'était une mesure complètement disproportionnée. Ils ont, je cite, expliqué que la région utilisait un marteau piqueur pour frapper une fourmi. J'étais bien contente de lire ça. Donc voilà.
Alors ça me touche énormément parce que quand j'étais gamin, à un moment, il y avait plein de fourmis à un endroit et où elles devaient pas être, je sais plus pour quelle raison. Et donc on les écrasait. Et donc moi je les écrasais avec un pied, puis il y en a un autre qui les écrasait avec une massue, puis à un moment on a ciblé la même fourmi et ça fait mal.
Cet épisode part dans tous les sens.
Souvenirs d'enfance.
Sans parler de l'insecticide que je viens de déclarer. J'étais petit, hein, je rappelle.
J'ai des souvenirs comme ça aussi, mais sans la masse. On avait des fourmilières aussi qu'envahissaient le long de la terrasse et qui venaient dans la maison. Alors, il fallait toutes les tuer. C'était l'extermination.
Ouais, c'est ça. Tu m'étonnes qu'à maintenant, on est dans un monde de merde. Hein, c'est la faute de nos parents. Hein.
Voilà.
Bon, et voilà. Là, c'est le moment où je vais gueuler très fort sur la CNIL, puisqu'on en a parlé dans deux épisodes news auparavant, je crois, mais en fait, la CNIL était en train de se réveiller sur « Ah oui, au fait, le RGPD, ça serait bien de l'appliquer. Bah, » Ouais, les enfants, ce serait vachement bien. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que là, le 25 mars, il y a l'industrie publicitaire qui publiait une tribune dans la presse nationale en expliquant que bah, les annonceurs, ils avaient mis en suspens leurs investissements à cause de la crise sanitaire. Alors, bah, du coup, c'était un petit peu trop dur, les règles qui doivent être mises en place par la CNIL sur la protection de la vie privée. Donc, faut que ça fasse l'objet d'un moratoire. Et puis, bah, quelques heures après, la CNIL a annoncé que oui, il n'y a pas de problème, elle reportait l'application du RGPD en matière de surveillance publicitaire. Voilà, voilà. Ça devient du grand n'importe quoi. Et puis ensuite, bah évidemment, un petit article de saison, enfin trois articles en fait, sur justement les rapports entre surveillance et crise sanitaire. Donc il y a un article du Monde qui est pas mal parce qu'en plus il fait le lien vers il y avait une interview de la présidente de la CNIL qui est linkée au bas de l'article, des choses comme ça. Il y a un article de Tristan Nuto qui l'a publié hier et il est intervenu sur LCI je crois, et puis un article de la Quadrature du Net, alors qui en fait n'est pas un article mais qui est un communiqué de l'Observatoire des libertés et du numérique, qui est constitué de la Ligue des droits de l'homme, de la Quadrature du Net, du Syndicat des avocats de France, du Syndicat de la magistrature de Paris et puis d'autres acteurs, pour dénoncer un petit peu le danger qu'on voit poindre là, c'est-à-dire que les gouvernements un petit peu partout dans le monde sont en train de mettre en place diverses mesures de surveillance des populations. Donc on a vu, y compris en France, apparaître des drones un peu partout pour fliquer les gens, les signaler aux officiers les plus proches, aux officiers de police les plus proches, pour qu'ils soient verbalisés s'ils respectent pas le confinement, pour leur rappeler que justement le confinement est en règle et qu'ils doivent rentrer. Et puis aussi des applications de tracking. Et ça, c'est l'option qui semble être retenue par le gouvernement à l'heure actuelle, puisque donc, si vous mettez une application en place, vous avez principalement deux logiques. Soit vous géocalisez les populations et vous veillez qu'elles respectent le confinement, vérifiez qu'elles le respectent, ou alors vous signalez les personnes qui ont pu être en contact avec des malades du Covid-19. Donc le gouvernement c'est l'annonce qui a été faite cette semaine, je crois que c'était le ministre de la Santé, Olivier Véran, conjointement avec le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, qui annonçait que le gouvernement allait travailler sur une application pour téléphone portable qui allait se baser sur le Bluetooth. Alors, il y a plein de problèmes avec ça, parce que déjà, bon, bah, évidemment, il y a toute la partie respect du RGPD. Dans l'interview de la CNIL, justement, de la présidente de la CNIL, qui est mise en lien dans l'article du Monde, elle donne les conditions indispensables pour que ce genre d'application soit acceptable, c'est qu'il faut déjà que ce soit contraint dans le temps, il faut que ce soit transparent, c'est-à-dire qu'idéalement il faudrait que le code soit open source, ce qui est le cas pour l'application de Singapour, hein, par exemple. Que ce soit assorti de mesures de sécurité, que ce soit le moins intrusif possible.
Ouais, après Singapour, c'est pas la démocratie la plus...
Non, mais pour le coup, le code de l'application est open source. Hein. Donc.
D'accord.
Voilà. Que l'application soit la moins intrusive possible et puis surtout qu'elle comporte un intérêt scientifique avéré, ce qui n'est pas tellement prouvé pour le moment. Ça c'est à ramener en lien avec le pourcentage de la population qui est testée. En fait, ça sert pas à grand chose de traquer les gens si tu les dépistes pas massivement, ce qui est actuellement le problème en France. Donc il y a plusieurs problèmes qui émergent avec cette solution possible. Le premier, c'est que le RGPD, on en parlait là tout à l'heure avec l'exemple de la surveillance des lycéens à Marseille, pour qu'un consentement soit valide, il faut qu'il soit donné de manière libre et éclairée. Et en fait, on peut pas prévoir, par exemple, comment seront accueillies les personnes qui refuseront d'utiliser l'application, que ça soit volontairement ou que ça soit pour des raisons économiques, pour des raisons de handicap, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées, par exemple, qui n'ont pas de smartphone, et il y en a beaucoup pour qui l'usage d'un smartphone n'est pas hyper évident. Donc installer une application pour le tracking, ça va pas être facile. Et on n'a pas aujourd'hui de garantie sur le fait que ces personnes ne seront pas discriminées à l'entrée des magasins ou autres. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que, en fait, on est en train d'ouvrir une brèche. C'est-à-dire que nos données personnelles, c'est une véritable mine d'or non exploitée jusqu'à aujourd'hui par les opérateurs. Ils en ont énormément à notre sujet, mais ils n'avaient pas trouvé le moyen, en tout cas ça n'avait pas pris, parce que Orange avait essayé il y a quelques années de mettre un service de géolocalisation en place, et puis ça n'avait pas pris plus que ça, et globalement c'est un petit peu un truc qui les démange quand même. Et ce qui se passe, c'est que normalement, en fait, il y a la directive e-privacy au niveau européen, et puis la loi française interdisent le traitement des données de géolocalisation non anonyme sans notre consentement. Or, ce qui se passe, c'est que c'est une règle qui a déjà été enfreinte par Orange, puisqu'elle a fourni à l'INSERM, à l'APHP, mais aussi à certaines préfectures, des données qui sont issues de ses abonnés téléphoniques. C'est comme ça qu'on a pu savoir combien de gens avaient quitté Paris, par exemple. Et ça, c'est autant ça pouvait être fait de manière tout à fait anonyme, autant là, on sait qu'Orange l'a fait en utilisant les données personnelles. Google l'a fait également, hein, puisqu'ils ont publié l'évolution de la fréquentation de certains types de lieux, comme les restaurants et les transports, en se basant sur les données en sa possession. Ce qui n'empêche pas, malgré tout...
Après, juste une petite parenthèse, en utilisant quand même la privacy différentielle, ce qui fait qu'il n'y a aucune donnée personnelle, enfin c'est tout et comment dirais-je ? Je ne sais pas bien l'expliquer ce truc-là. Il y a aucune donnée personnelle, c'est juste des agrégats. On peut pas en déduire quoi que ce soit de.
Non, mais ça c'est pas le problème. Le problème c'est pas qu'elles soient communiquées. Okay. Le problème c'est qu'elles soient traitées. Et en fait, elles ont nécessairement été traitées les données personnelles. Et c'est ça qui est problématique parce que c'est interdit par la loi. Et. Bah si, le traitement des données personnelles sans ton autorisation, le traitement des données de géolocalisation sans ton autorisation, c'est interdit. Mais le problème, c'est que la CNIL tolère une certaine notamment pour les opérateurs téléphoniques, elle tolère une violation de la loi dans le domaine du tourisme, de l'aménagement du territoire et du trafic routier. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Et c'est ce qui fait que la CNIL a encouragé le gouvernement à légaliser dans le sens qui était poussé par Orange, alors que, encore une fois, non seulement tu es en train d'introduire une brèche un peu dangereuse, mais en plus l'utilisation des applications de tracking n'est pas prouvée. L'utilité, pardon. Et il y a Tristan Nitto le rappelait de manière très intéressante dans son blog, en fait, le danger avec tout ça, et c'est Mike Godwin qui est l'inventeur du fameux point Godwin qui l'a formalisé, c'est que la surveillance, c'est une drogue dure pour les gouvernements, et qu'une fois qu'ils y ont goûté, c'est impossible de s'en passer. Et par exemple, il prenait l'exemple de Vigipirate, qui est en place depuis 1995, et qui est toujours en place, en fait. Moi, j'ai quasiment toujours connu Vigipirate, et donc le problème, c'est le danger à l'heure actuelle, c'est de laisser la peur nous dicter la signature d'un chèque en blanc au gouvernement. Alors, ce qui était intéressant, notamment dans l'article de Tristan, c'est qu'il expliquait que si on fait le choix d'avoir des applications pour gérer l'épidémie, eh ben il va falloir prendre pas mal de décisions qui finalement nous reviendraient à nous en tant que citoyens. Hein. Notamment, est-ce qu'on part sur une approche centralisée ou une approche de stockage de données sur les terminaux ? Est-ce qu'on on opte pour une approche qui vise la population dans son ensemble ou qui vise chaque individu ? Est-ce que c'est une approche à l'esbrouf ? Regardez, on a fait quelque chose, ou est-ce que c'est un truc qui est vraiment efficace ? Une approche propriétaire ou logiciel libre ? Les données en clair, stocké en clair ou chiffrement des données, et s'il y a chiffrement, qui contrôle la clé ? Et puis, est-ce que l'application serait destinée à informer la police d'une violation du confinement, ou est-ce qu'elle serait destinée à informer l'individu d'un risque de contagion ? Donc c'est pas mal de choses, de choix qui sont très impactants et qui idéalement nous reviendraient, mais en l'état actuel, il y a peu de chances qu'on soit consulté, et même la CNIL, hein, parce que la présidente, dans son interview, a été déclaré qu'elle espérait bien que le gouvernement allait lui demander son avis, mais je ne pense pas que le gouvernement lui demandera son avis, puisqu'à l'heure actuelle, il peut légiférer sans. Et le problème, c'est que si ces règles ne sont pas respectées, qui ira manifester? Voilà.
Ok.
Eh ben.
J'ai bien pété le moral de tout le monde.
C'est pas dans
la merde. Bah, si on ne sera pas mort de l'un, on sera mort de l'autre. Voilà. Non, je réagis pas trop parce que j'ai pas beaucoup lu sur ce sujet-là, donc je me déclare plus incompétent que qu'autre chose. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Guillaume, donc la differential privacy, elle garantit, c'est que le dataset qui a été publié par Google, effectivement, respecte l'anonymité des personnes. Après, ce que disait Audrey, c'est que le fait que Google ait travaillé sur les données de géoloc sans le consentement de tous les gens, visiblement, potentiellement, c'est ça qui est la violation.
Sans ça, consentement, malgré tout, ouais. Ça fait partie... Je veux dire, quand tu utilises... je sais pas, Google Maps, etc. Si tu as la géolocalisation pour savoir où tu es, tu as déjà consenti en fait à partager.
Oui, mais même quand la géolocalisation est désactivée, après, ton téléphone te traque. Enfin, les gens n'ont aucune idée d'à quel point ils sont traqués. Enfin.
Oui, bien sûr, mais là c'est que avec les données que tu as autorisé à être utilisées parce que justement tu utilises une application de géolocalisation comme Maps, quoi. Donc c'est pas une utilisation illégale. Après c'est le traitement agrégé. Est-ce que c'est là
pas assez fin là en tout cas. Mais ça je sais pas si la loi différencie l'utilisation pour une fin spécifique versus détourner l'usage.
En tout cas Google a demandé l'autorisation du gouvernement et si le gouvernement était OK si on pouvait faire ça, ils l'ont fait avec tous les pays avec lesquels pour lesquels ils ont publié ces
Oui, mais là encore tu as un problème dans le sens où
oui, c'est le gouvernement.
La loi renseignement, pour rappel, qui a été votée en 2015 suite aux attentats et qui a été par la suite incorporée au texte de loi courant, elle permet déjà une géolocalisation de la population pour des motifs qui sont suffisamment vastes pour pouvoir inclure l'épidémie sans qu'on le sache, hein, s'ils ont décidé qu'eux, en fait. Donc il y a plus de... Enfin, nous, on est complètement dépossédés de notre capacité à dire « je suis d'accord pour que mes informations soient recueillies et traitées ou pas » en ce moment.
Ouais.
Ok, chef. De toute façon, tu connais mieux le sujet que nous. Hein.
C'est ça. Bon, on va avancer parce que là, on est en train de faire péter le high score du timing. De toute façon, vous n'avez rien à faire chez vous, donc lisez et faites-vous votre opinion.
Il paraît qu'on a plus de temps.
Je le trouve pas le temps, mais bon, bref. Outil de l'épisode. Il y a DevInts qui est intéressant. C'est un site web avec un ensemble de... Comment on appelle ça en français? Des
astuces?
Des anti-sèches, qui sur Bash, comment on utilise React, SAS, ECMAScript, Vim, Go, etc. Et donc notamment quand on clique sur Vim, ensuite, on a comment on fait pour sortir, qu'est-ce que ça fait, comment on navigue, ça fait 4-5 pages à chaque fois à peu près, et c'est visuellement plutôt plaisant, et donc c'est toujours à votre au bout de vos doigts, parce que vous allez sur ce site web devints.io et puis vous cherchez ce que vous voulez faire et paf, vous avez le résultat. Vous l'avez utilisé ou vous l'avez
Je l'ai testé et je l'ai trouvé très très beau, très agréable. Je vais le garder sous la main, je pense.
Ouais, exactement. Ouais, c'est pareil.
Ma feuille de style est chouette en tout cas, c'est très joli.
Voilà. Ensuite, il y a screen.so.
C'est un reboot de Screen Hero. Donc Screen Hero, c'était une super application pour pair programmer qui avait été rachetée par Slack, et en fait Slack s'était complètement vautré sur son intégration, donc ils ont fini par tuer le projet en interne. Et là c'est les deux, enfin le fondateur et puis un autre des gars avec qui il a travaillé sur Screen Hero qui font un reboot de l'appli. Alors ils ont un petit peu avancé du coup la publication de la bêta pour que les gens puissent s'en servir pendant le confinement. Donc là je l'ai pas essayé, mais je sais qu'on était bien addict à Screen Hero, qui était vraiment très très bien fait.
Et puis l'article, il décrit en fait quels étaient les points qui sont importants et qu'est-ce que Screen Hero faisait de bien. Et du coup, j'imagine ce qu'ils ont voulu remettre dans screen.so. Voilà, donc si vous avez ce besoin-là, essayez cet outil-là. Crisp, ça, c'est rigolo. Alors, moi, j'ai juste fait tourner leur démo sur leur site. J'ai pas essayé en vrai, mais c'est un outil qui, en gros, la promesse, c'est d'enlever le bruit de fond pénible des enfants qui crient, des chiens qui aboient, un gros bruit autour de vous. Et donc, c'est pas tant pour le protéger vous, mais pour protéger les gens qui sont dans la même conférence call que vous. Donc c'est ça l'idée. Donc après, si vous avez un bon casque qui vous isole, voilà.
C'est un petit peu dans les deux sens en fait, parce que si t'as des collègues qui l'utilisent pas et qui ont du bruit autour d'eux, ça va filtrer aussi le son que tu reçois. Donc ça marche dans les deux sens.
D'accord. Mmh. Mais en tout cas, si t'as ton chien qui te gueule dans l'oreille, ça corrige pas. Hein.
Non, ça c'est foutu. Ça c'est mort. Ouais.
Voilà. Parce que moi, je trouve que c'est ça un point hyper dur. D'ailleurs, là, dans les blagues qu'on s'est échangées là des dernières semaines, là, il y en a une comme ça où le gars fait sa conf avec ses collègues, et il y a un de ses collègues qui est en gros entouré de ses gamins qui balancent des trucs, et en gros, c'est impossible de se concentrer. Ça s'entend pas tant que, en tout cas, nous, on a des micros assez directionnels, donc le bruit va pas s'entendre tant que ça. Par contre, quand t'es dans la pièce dans la maison et t'entends ces sons-là, c'est très distrayant. Et donc ça, il faut un outil, enfin, faut un casque isolant d'une manière ou d'une autre, en fait, pour vous améliorer ici. Donc, vous pouvez utiliser le truc Bose, les trucs qui rentrent bien dans les oreilles, peu importe le choix. Mais ça aide pas mal aussi, je trouve. Donc voilà, Crisp, vous pouvez l'essayer. On peut l'essayer pour jouer.
Ça envoie sur le serveur, en fait. Hein, c'est ça. Hein. Et c'est limité en gratuit à 2
ouais,
ans. Ouais,
en fait, là, ils ont augmenté le modèle premium pour la période de confinement. Donc, tu as 2 heures gratuites par semaine. Ouais. C'est déjà pas mal.
Et ça envoie sur le serveur? J'ai pas lu, en fait, ça.
Je crois, ouais.
D'accord. C'est avec de l'intelligence artificielle, voilà, messieurs, mesdames.
Voilà. Mais après, voilà, c'est aussi, on envoie notre voix à quelqu'un d'externe. Donc, par exemple, c'est le genre d'outil que je pense que j'ai pas le droit d'utiliser sur ma machine. Tu vois, c'est des conf calls d'entreprise et en fait, après, ils font du speech to text de ce que tu envoies en plus. Enfin,
il y a le mode dans la rue aussi. Vous pouvez vous balader dans la rue et faire genre travailler de la maison. voilà. Donc, ça, c'était plus pour la blague. Je sais pas, vous l'utiliseriez. Moi, je l'utiliserais pas, par exemple, pour ces raisons-là. Voilà.
Ouais, pour cette raison-là, je l'utiliserais peut-être pas, parce que, alors, peut-être qu'à titre personnel, je l'utiliserais, mais sur ma machine du boulot, normalement, je devrais pas utiliser ce genre de truc-là.
Et, en rubrique débutant, si vous avez à faire de la manipulation de chaînes de caractères ou de fichiers de texte dans le shell, alors déjà, bon, on va pas vous aider, faut que vous arriviez à démarrer le terminal, mais une fois que vous avez réussi à démarrer le terminal, il y a un blog qui résume pas mal des 10-15 utilisations principales de certaines commandes comme ce cat, head, tail, word count, grep, cut, past, sort, unique, awk, tr, fold et sed. Je vais regarder sed parce que sed, c'est le truc que j'arrive juste pas, jamais.
Donc ouais, c'est les incontournables.
Voilà, c'est intéressant. Ouais. Ouais, voilà, pour la manipulation, juste en gros en bash ou en SH. Donc ça, c'est intéressant. Pareil, c'est une petite ressource à garder dans ses favoris parce que vous n'en avez pas besoin là maintenant. Et c'est à la lire, vous voulez peut-être apprendre quelque chose, mais vous allez sûrement l'oublier. Et c'est genre, tiens, j'ai ce besoin-là. Voilà, ça, c'est un bon site web. Voilà, on va passer aux conférences. Il y en a pas.
Ça existe encore, ça?
Non, elles sont plus ou moins toutes virtuelles, hein. Donc, GitHub Satellite, 6 et 7 mai en virtuel. DevFest, donc, ils n'ont pas.
Alors, en fait, ils ont même ouvert le CFP. Enfin, le CFP est toujours ouvert, plutôt, sur le DevFest Lille. C'est le DevFest Nantes qui vient d'ouvrir son CFP. Donc, non, pour le moment, il n'y a pas de.
Je crois que ça va être
ouvert jusqu'au 15 avril, le CFP. Donc, ça ferme ça ferme bientôt.
Dans 5 jours.
C'est repoussé en septembre.
Qui ça, Deathfest?
Ouais.
Ok, repoussé en septembre. Vox Days Luxembourg, hein, du 17 au 19 juin, en théorie.
En théorie, ouais.
Ouais, pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce, en tout cas pas sur le site web. Devox France, du 1er au 3 juillet, voilà, on croise encore les doigts. Sunny Tech, du 2 au 3 juillet. Devox UK, du 24 au 26 août, donc juste à la rentrée. C'est pas une mauvaise idée, juste un petit peu avant la rentrée. Hein. Alpecraft, reporté à l'automne. C'est quoi Alpecraft, du coup?
Alpecraft, ça a été lancé l'an dernier et je suis pas certaine, j'ai peur de dire une bêtise, je me demande si c'est un peu, si c'est pas sur le format Socrates un peu. Et donc ça devait avoir lieu en juin et ils reportent à l'automne, mais ils ont pas annoncé la date pour moi.
D'accord. En tout cas, c'est autour du software craftsmanship.
Exactement.
DevOps D-Day le 9 octobre. Comment faire du DevOps sans se voir? Je rigole. CFP est ouvert jusqu'au 15 juin. DevFest Nantes du 15 au 16 octobre. Le CFP est ouvert jusqu'à la fin mai. Volcamp.io du 15 au 16 octobre. Je ne connais pas Volcamp.
C'est normal. Ouais. Ça va être la première édition.
Oh, Volcamp, c'est beau ça. C'est autour voilà, Clermont-Ferrand, etc.
Clermont-Ferrand.
Oui, c'est beau ça.
Ouais.
Le Volcamp.
Donc le CFP devrait ouvrir bientôt.
Ouais. DevFest Toulouse, 5-6 novembre. Et Conflow.
Flowcon.
Du 9 au 10 novembre. Pardon. Je trouve que Conflow, c'est quand même plus sympa.
C'est Flowcon.
Bon, je vais leur demander de changer le nom.
Et le DevFest Toulouse a annoncé que, bah, ils attendaient un petit peu pour ouvrir le CFP, comme, voilà. Les gens n'avaient pas forcément trop la tête à ça. Donc.
Ouais. D'ailleurs, c'est une grande question sur des boîtes qui ont des annonces à faire, en fait, là. Est-ce que on est tellement dominé par le Covid que, du coup, les gens regardent plus du tout? Tu vois, genre, Groovy fait la version 7 ou Quarkus la version 3.
Bah, d'ailleurs, on a sorti la 3.0.3 là, à l'instant, et tu vois, tu l'as même pas vu passer.
Voilà. Non, mais, bon, okay, mais tu vois, une major.
D'accord, mais.
Donc là, on parle de projets open source, mais imagine aussi des boîtes plus grosses, Red Hat, IBM, Google. Qu'est-ce que tu fais des annonces? Tu les mets à la poubelle le temps que tout le monde revienne à ses sens?
Bah, déjà, c'est presque un peu. Enfin, il y a plusieurs aspects, je pense. Il y a déjà l'aspect, bon, est-ce que c'est le moment de te la péter avec la sortie de ton truc? Je pense qu'il vaut mieux faire plutôt profil bas et puis se focaliser sur ce que tu peux faire pour aider dans le contexte actuel. Donc, tu as cet aspect-là. Et puis après, l'autre aspect, c'est que bah, y a peut-être des choses qui vont pas sortir ou vont sortir plus tard parce que les gens qui travaillent sur tous ces produits-là bah, ont les mêmes problèmes que tout le monde. On travaille télétravail à la maison avec des enfants, c'est pas facile. Ou sont touchés eux-mêmes par le Covid, ou etc. Donc, je pense qu'on va de toute façon voir moins de choses sortir. Et encore en plus, effectivement, on est tellement focalisé là-dessus qu'on va porter moins attention à tout ce qui va sortir. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que, à mon avis, on va en voir moins passer. Il y en aura moins de sorties, puis on va moins se la péter parce qu'on a sorti un truc, quoi.
Ouais. Moi, je suis plutôt du camp qu'il faut quand même pas essayer de pas arrêter la vie, et donc tant qu'on peut les continuer. Voilà. Mais c'est vrai que l'impact, ça se trouve, tu vas faire un gros flop.
Ma vie s'arrête pas. Bon. Ouais.
Voilà, cet épisode se conclut sur, eh bien, on est à 75% d'overhead, mais sinon,
c'était moins d'une heure, c'était ça l'objectif. Hein.
C'était
moins
ça. Ouais.
Voilà, donc, exactement, 75% voilà.
Donc, comme d'habitude, c'est un échec critique. Hein. Ça ne change pas.
Mais il n'est pas encore 15 heures.
Ouais,
donc,
tout va bien. Alors, on est large.
J'ai un meeting, moi, dans une petite pause pipi. Et okay, hop, on y retourne.
C'est parti.
Voilà, bah, écoutez, restez chez vous.
Ouais. Bon courage à tous.
Voilà, restez bon serein, courage. Faites des pauses,
prenez soin de vous.
Occupez-vous de votre famille aussi, c'est important, sinon ils vont vous claquer dans les doigts, vous allez le regretter, voilà, et puis on se retrouve d'ici 15 jours et un mois pour l'épisode news. Allez, bisous.
Ciao.
Bisous, ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.